Il se jeta à ses pieds et le supplia dans environ 12 ans qu'il se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent place au milieu d'eux. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ? Ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. » Et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc on ne pouvait pas dire ses os sont encore en croissance, c'est pourquoi il a été guéri. Non, il était âgé de plus de 40 ans. Donc la preuve était là. Bien-aimés, notre verset, c'est le 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. J'ai entendu un homme parler de son passé. Il expliquait la chose suivante. Il disait, mais il voyait certaines personnes, notamment son propre frère, qui paraissaient apparemment bons. Mais son frère est mort. Et théoriquement, à moins qu'il y ait des choses que lui ignorait, théoriquement, son frère allait en enfer. Alors, dans cette colère, il a dit à Jésus, il a dit à Dieu, mais quand même, cet homme-là semblait bon. Pourquoi va-t-il aller en enfer juste parce qu'il n'a pas cru en Jésus? Mais c'est là que il a eu comme les yeux ouverts. Dieu lui a donné des passages de la Bible où il est écrit que Dieu ne peut pas supporter le mal. Il ne peut pas supporter le mal. C'est comme dans une chambre d'opération, dans une salle d'opération. Une salle d'opération ne peut supporter le microbe. Dieu ne peut pas supporter le mal. Mais il est bon, il veut sauver les gens, il veut guérir. Alors il nous a donné la solution. Et la solution, c'est Jésus. Bien-aimés, ne rêvons pas que personne ne nous amène à rêver, à imaginer des choses, à se faire de films. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Il n'y a pas de salut ailleurs. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous avons lu tout ce passage de chapitre 3 et 4. Ce passage vient de nous montrer comment les autorités religieuses du temps de Jésus étaient hostiles à Jésus, hostiles à la vérité que Jésus amenait, parce que cette vérité déstabilisait leur structure. Parce que s'ils acceptaient cette vérité, ils cessaient d'être des gens de pouvoir, ils cessaient d'être des gens glorieux devant lesquels tout le monde se prosternait. Alors, ils ont préféré rejeter ce qu'ils voyaient bien être la vérité. Nous avons lu ensemble. Ils ont eux-mêmes dit, on ne peut pas nier qu'un miracle vient de se produire. Parce que le monsieur est là, le monsieur mendiait tous les jours devant la porte la belle. Et Pierre et Jean ont fait en sorte qu'ils ont prié pour lui et il a commencé à marcher alors qu'il était infirme. Le miracle est là, tout le monde a vu. Donc on ne peut pas nier ça. Ils ne pouvaient pas nier que le nom de Jésus était le nom de Dieu. Mais leurs intérêts étaient touchés. Et ces pharisiens l'ont refusé. Mais quand nous avons lu Luc 8, le problème c'était quoi dans Luc au chapitre 8? C'était un chef de synagogue. C'est-à-dire quelqu'un de la race de ceux qui sont en train de créer des problèmes à Jésus. Quelqu'un de la caste de ceux qui créent des problèmes à Jésus. Mais cet homme, c'est sa fille qui est morte, qui était malade en ce moment-là. Sa fille était encore malade, mourant. Elle se mourait. Alors, vous savez, quand c'est votre chair, c'est là que la réalité revient. Là, il s'est dit, je comprends bien que mes collègues soient contre Jésus, mais là, il s'agit de la vie de ma fille. Je mets nos discussions théologiques de côté, je mets mes raisonnements de côté, je mets mon orgueil de côté, parce que là, ma fille va mourir. Ça devient sérieux. Bien-aimé, la vie est très sérieuse. La vie, elle est très, très sérieuse. Même le monde nous montre que la vie est très importante. Voyez combien de gens qu'on appelle pompiers sont prêts pour sauver une personne à se sacrifier eux-mêmes. Parfois, ils peuvent être tués à deux et ils ont déjà sauvé la personne. Après eux, ils meurent. Parce que même le monde sait que la vie est importante. La santé, la vie, c'est quelque chose de précieux. Parce que peut-être toi, tu te diras, ta fille n'est pas en train de se mourir. Mais ta vie à toi est précieuse. Elle est importante. Vous savez, quand quelqu'un se perd dans le désert, quand quelqu'un se perd dans les montagnes, dans une forêt, on peut déployer des hélicoptères, des moyens qui peuvent monter jusqu'à $1 million juste pour retrouver un humain. Parce que la vie est importante. Bon, imaginez maintenant la vie éternelle. C'est plus qu'important. Donc cet homme-là s'est dit, oh, ça c'est quand même ma fille. J'ai bien vu que, vous savez, on connaît la vérité au fond de soi. On connaît la vérité. Et tous ceux qui combattaient Jésus, au fond d'eux-mêmes, connaissaient la vérité. Ils savaient que, non, cet homme-là est forcément de Dieu. Il y a dans Jean, au chapitre 3, il y a un qui a reconnu ça. L'un de pharisiens, Nicodème, est venu reconnaître. Il a dit, mais il est venu la nuit parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient. Il est venu en cachette par là, Jésus, pour lui dire, je sais que ce que tu fais est de Dieu. Même autour de nous, il y a des gens, moi je vois parfois des gens qui ne veulent pas s'approcher de l'église pour prier. Mais ils savent qui tu es. Un jour, les bobos les dépassent. Ils ne viennent pas avouer clairement, je viens parce que je sais que tu es de Dieu. Bon, il vient expliquer tous ses problèmes. Bon, moi, comme je fais partie des gens aussi silencieux, tu vas expliquer, et moi aussi j'écoute, je dis rien. Jusqu'à ce que la personne elle-même dise, bon, je sais que la prière, ça fait des choses. Ah! Donc, si tu es venu me voir, c'est parce que tu sais que je prie. Mais pourquoi ne pas céder à Jésus une fois pour toutes? Jairus a cédé. Il a compris que là, ce n'est pas une question de théologie. Ce n'est pas une question de débat. Là, c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Vous savez, tout le monde ne se comporte pas comme Jairus. Il y en a aussi, malgré la vie de leurs enfants qui étaient en danger, ou leur propre vie qui était en danger, ils ont préféré continuer avec l'orgueil, continuer avec les débats, continuer avec les discussions. Mais là, Jairus, il aimait vraiment sa fille, plus que son propre orgueil, plus que sa propre valeur. Il s'est dit non, même si les gens me voient, parce que toi, chef de la synagogue, qu'on te voit aller demander à Jésus quelque chose, ça te faisait inférieur à Jésus. C'est pas grave, il s'est dit, c'est pas grave. Cet homme-là, on a vu comment il a guéri des gens. Ma fille est malade. J'ai prié moi aussi, Dieu n'a rien fait. J'ai fait ceci, Dieu n'a rien fait. Alors que cet homme, quand il touche quelqu'un, la personne guérit. Non. Je vais mettre ma théologie de côté. Je vais mettre mon orgueil de côté. Mes raisonnements de côté, parce que c'est une question de vie. C'est une question de solution, bien-aimé. Quand on dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, le salut, c'est le fait d'être sauvé. Quand on est sauvé, certainement d'un danger, et l'homme est en danger à cause du mal qui est en lui, il se détruit et il finit par la mort. Et si il n'entre pas dans le salut, cette mort le conduit en enfer éternellement. Le salut n'est pas que ça. Le salut, c'est aussi le bonheur. Parce que quand on est sauvé d'un danger, ce n'est pas pour en vivre un autre, c'est pour vivre heureux. On ne peut pas dire de quelqu'un qui se sauve d'un crocodile dans l'eau et en sortant de l'eau, il tombe face à un lion. On ne va pas dire qu'il est dans le salut. Il est toujours en danger. Donc le salut, ce n'est pas seulement être sauvé du danger, c'est aussi entrer dans le bonheur. Et ça, tout le monde le cherche sur la terre. Et cet homme était embêté, il y avait un danger dans sa vie. Sa fille était en train de mourir. La mort de sa fille allait occasionner de la tristesse dans son cœur, fortement. Qu'un parent enterre son enfant, ce n'est pas facile. Alors il s'est dit, pour ma fille, je vais affronter les regards des humains. Pour ma fille, je vais accepter qu'on se moque de moi. Puisque, comme il faisait partie des gens qui se combattaient Jésus, enfin de cette caste-là, peut-être que lui personnellement ne le faisait pas, mais sa caste, son groupe, son mouvement combattait Jésus. Il s'est dit, bon, c'est pas grave. Moi, je sais qu'on va se moquer de moi par mes partenaires, mais c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Alors il va voir Jésus. Mais pendant qu'il parle avec Jésus, il y a un incident, et Jésus l'accompagne pour aller prier pour sa fille. Il y a un incident qui a lieu, qui fait traîner Jésus en chemin. Une femme, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de perte de sang. Elle a dépensé tout son bien auprès des médecins. Elle a changé de médecin. Elle a payé. Elle était riche. Mais tout a été dépensé. Et fatiguée, Jésus passait par là. Elle s'est dit, c'est ma dernière chance. Tout le monde n'a pas de perte de sang. Mais la plupart des gens sont en train de gaspiller tout ce qu'ils ont. Ils gaspillent leur jeunesse, ils gaspillent leurs poumons en fumant. Vous savez, dernièrement, je passais devant France Télécom, qui est à côté de chez moi. Il faisait moins 3 ou moins 5. Il y a des employés qui étaient dehors, en train d'honorer leur maître. Vous savez, c'était quoi leur maître ? Du papier entouré, qui entoure un peu de tabac, de feuilles de tabac. Dans le froid, je dis, oh là 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 là. Le salut ne se trouve qu'en en Jésus. Ça, c'est l'esclavage. Mais les gens, quand ils ont commencé à fumer, ils pensaient que c'était quelque chose qui les élevait, qui les fortifiait, qui les honorait, qui faisait d'eux quelqu'un parmi les autres. On se sent un jeune, on se sent une jeune en fumant, on se sent libre, quoi. Mais qui est-ce qui t'a emprisonné, bien-aimé? C'est rigolo. Il y a des gens qui pensent qu'en fumant, ils sont libres. Mais qui t'a attaqué? Qui t'a dit que on t'a mené en prison? Mais t'es libre. Mais or, c'est faux, tu n'es plus libre. Le grand maître cigarette t'a lié maintenant. Même quand il fait froid moins 5, les lèvres sont devenues noires. Il y a des gens, avant, ils avaient des lèvres roses. Après, ils ont des lèvres noires. Est-ce que vous trouvez ça bien? C'est ça le salut. Mais quand il a commencé, il pensait que c'était comme un salut. Je fume. Je suis quelqu'un. Ce n'est pas le salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. En aucun autre. C'est ça le salut, c'est aussi le bonheur. Et cet homme est parti voir Jésus. Et pendant qu'il y avait l'incident de la femme qui souffrait de perte de sang, 12 ans, et cette femme touche le vêtement de Jésus, elle est guérie. On vient dire à Jaïrus, Jaïrus, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ta fille maintenant est morte. Mais le verset 12 de Acte 4 nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Vous savez, Dieu va permettre ça. Qu'on le voit clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre. Parce que cet homme-là était aussi un religieux. Il avait des moyens. Donc les médecins ont échoué. Sa religion a échoué. Il n'y a que le seul chemin qui pouvait apporter le salut, c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas l'épicerie sociale qui est le salut. Ce n'est pas la France qui est le salut. La France est endettée jusqu'au cou. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. On croyait que Hollande allait faire baisser le chômage. Il s'est donné du travail pour lui-même à voyager par-ci par-là, mais le chômage est resté et même s'est amplifié. Et il n'y a de salut en aucun autre. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de sortir des théories de philosophie. On est en train de parler de la réalité. Vous savez, certaines choses ne deviennent réalité, finissent par devenir réalité, mais le jour où ça devient réalité pour toi, tu ne sais pas comment en user pour entrer dans le salut. Comme cet homme et sa femme qui niaient l'existence de Dieu, jusqu'au jour où sa femme qui avait le cancer, elle commençait à se sentir mourir et elle a commencé à crier à son mari en disant « Sauve-moi !» Mais le mari dit « De quoi ?» Elle dit « Mais je vois des démons, des esprits qui m'entraînent en enfer. Sauve-moi !» Elle commença à crier, disant à son mari « Mais on s'est trompé. Dieu existe. Les esprits existent. » Parce qu'eux, ils étaient des athées purs et durs. Elle criait, elle disait « On s'est trompé. » Ça existe. C'est une réalité. Mais le mari s'est dit, mais je vais te sauver comment? Il s'est souvenu que sa mère lui avait donné une Bible. Autrefois, il cherche la Bible, il finit par trouver ça au fond d'un tiroir. Il avait la Bible dans la main. Mais que faire avec la Bible pour sauver quelqu'un? Il n'a jamais assisté à un culte. Il n'a jamais prêté l'oreille quand les gens parlaient de Dieu. Il faisait que refouler. Là, il avait la Bible. Même le chrétien qui est converti en un jour aurait su quoi faire. Mais lui, il ne savait pas quoi faire. Il a toujours rejeté. Il suffisait qu'il lise Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste ce verset-là. Et dire à sa femme, confesse Jésus. Romains 10, 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il suffisait de deux versets. Mais il avait la Bible, il ne savait pas quoi faire. Parce qu'il a passé toute sa vie à rejeter Dieu, à rejeter Jésus, à rejeter. Et peut-être que, puisque sa mère lui a donné la Bible, peut-être qu'il entendait, mais ça entrait dans une oreille et ça sortait dans l'autre parce que son cœur ne voulait pas. Rempli d'orgueil. C'est pourquoi le salut ne peut être donné qu'aux gens qui finissent par reconnaître que le monde les a dépassés, la montagne les a dépassés. Il s'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quelqu'un qui n'est pas encore fatigué ne peut pas être sauvé. Et il y en a malgré les difficultés, malgré les complications de la terre, ils ne veulent pas avouer qu'ils sont fatigués. Ils veulent continuer à se battre. Mais Jairus a dit, je suis fatigué. On ne va pas continuer à combattre Jésus. Moi, ma fille est en train de mourir. Je m'humilie, je vais le voir. Je ne vois pas ce que Jésus a fait comme mal à quelqu'un. Vous savez, à un moment donné, la vérité vient à vos yeux. Vous vous posez la question, mais finalement, mais ces gens-là, ils ne m'ont pas demandé de l'argent. Ils n'ont pas demandé à ce que je sacrifie ma fille ou bien mon garçon. Mais finalement, Jésus, quel mal a-t-il fait? Vous savez, qui a posé cette question-là? C'est le juge de Jésus. Quand les Juifs l'ont amené pour qu'il soit crucifié, Ponce Pilate a dit ceci, mais quel mal a-t-il fait? À un moment, il faut être sérieux. Quel mal a-t-il fait? Et aujourd'hui, quand tu refuses Jésus, quel mal il t'a fait? Que tu me refuses moi, d'accord? Que tu refuses des groupes, d'accord? Mais pourquoi tu vas refuser Jésus? Veut-il te prendre quelque chose? Non, il veut te sauver. Le salut ne se trouve en aucun autre. Là où tu penses que ton salut se trouve, c'est une erreur totale. Tu te trompes. Jairus a cédé. Et quand Jésus est parti là-bas, quand les gens sont venus lui dire, arrête, ta fille est morte. Jésus a dit, Je suis la résurrection, Jaïrus. Crois seulement. Crois seulement. Bien-aimé, nous n'allons pas dire simplement que Jésus, le salut ne se trouve qu'en lui. Nous ajoutons crois seulement. Cette femme-là a fait 12 ans, mais un jour elle a vu la vraie lumière en touchant le vêtement de Jésus. Nous vous disons, croyez seulement. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Il y a un homme qui avait fait 38 ans, paralysé. Mais la 38e année, Jésus passait par là. Crois seulement. La Bible est la vérité. C'est une question de foi. Quand cette femme a été sauvée de la perte de sang, Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et quand Pierre était face aux mendiants qui demandaient l'aumône, Pierre et Jean ont dit, regarde-nous, regarde-nous. Nous, on n'a pas d'argent, mais on a quelque chose de plus grand. On a le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut changer ta vie. Alors, bien-aimé, le nom de Jésus peut changer ta vie. Le salut ne se trouve pas dans l'argent. Parce que si le salut se trouvait dans l'argent, les milliardaires n'en chercheraient plus. C'est sans fin. Il faut toujours en trouver. Il faut toujours en trouver. Quel scandale vous n'avez pas vu à la télé? Des ministres qui ont déjà beaucoup d'argent, mais ils vont prendre encore des maisons dans les HLM de Paris pour payer moins cher. Ils vont faire des magouilles, utiliser des maisons de fonction, alors qu'ils ne sont plus, mais ils ont beaucoup d'argent. Mais l'argent, le goût de l'argent ne finit pas. Ça va toujours plus loin. Mais et qui a été sauvé parce qu'il avait de l'argent? Personne. Onassis, le grec qui était riche à un moment donné, qui a pris même la femme d'un président américain, Jackie Kennedy, pour montrer sa puissance. Il paraît qu'il sortirait même avec cette femme alors qu'elle était femme du président. Mais est-ce que l'argent a sauvé Onassis? Pas du tout. Il est dans le tombeau, poussière. Ce n'est pas ça le salut. Est-ce que Bill Gates était sauvé à cause de son argent? Pas du tout. Nous avons été témoins. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une femme de président cherche à quitter un homme comme ça? On a été témoins de cela. Moi, je me disais, mais je rêve ou quoi? Une femme de président, elle insiste pour se séparer du président. Le président fait des déclarations d'amour à la télé en direct. Mais elle est partie jusqu'au bout, elle a divorcé Cécilia. C'est pour dire que l'argent ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça donne l'illusion. Parce qu'on peut s'acheter beaucoup de choses, mais ça ne donne pas le bonheur. Mais toutes ces limitations, quand tu vois une femme quand même te rejeter alors que tu es président, c'est pour te dire que tu n'es rien, tu es un petit. Cherche plus grand, et le plus grand c'est Dieu. Mais les gens, malgré ces limitations, ce manque de salut, malgré ces échecs, ils ne veulent pas aller dans le nom seul qui peut sauver réellement. Le nom de Jésus. Le salut ne se trouve pas dans le pouvoir. Le salut ne se trouve pas dans le pouvoir. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, l'argent, ça vient vite, mais ça part aussi vite. On a connu des riches et qui aujourd'hui sont pauvres, bien-aimés. L'argent, ça vient vite. Vous savez, même quand on a fait 10 ans, on travaille difficilement, l'argent ne vient pas. Mais quand ça va commencer à venir, ça viendra toujours vite. Ça peut faire 15 ans, 20 ans, ça traîne. Mais dès que la porte sera ouverte, ça va commencer à venir vite. Mais attention, ça part vite. Il y a mon frère qui vit aux États-Unis. Il nous a fait rire en nous disant que les Américains ont compris que pourquoi les riches sont toujours riches. Parce que les riches ne dépensent pas là-bas. Donc la meilleure technique, c'est de ne pas dépenser. Alors comment ils ne vont pas dépenser? Donc quand tu es riche, il y a toutes sortes de formules. Il y a, à chaque fois que tu t'abonnes à quelque chose, il y a des offres gratuites. Ils profitent de tout ça. Tu es ministre, tu ne payes pas ceci, tu ne payes pas cela. Ils cherchent toujours des postes qui vont faire qu'ils aient des avantages et qu'ils n'aient pas à dépenser. Ils ont compris que l'argent, ça part vite. Ça part très vite. Il y a des gens comme des Joe Louis, le plus grand boxeur américain de tous les temps, millionnaire dans les années 40. Mais il a fini portier d'un cinéma. Est-ce que vous vous imaginez? Millionnaire dans les années 40. Il finit portier d'un cinéma. L'argent, ça part vite. Des gens comme... À l'époque, je ne sais pas, bon, il y en a qui ont vu Arnold et Willy, le téléfilm américain avec les deux jeunes garçons, le plus court, qui s'appelait Arnold. Mais il a fini vigile. Vigile, bien-aimé. Je ne suis pas contre les vigiles, mais je veux dire, quand tu es millionnaire, tu finis vigile. C'est quand même... Au fait, toi, tu en devais avoir 10 vigiles pour te surveiller. L'argent, ça part très, très vite. Et le pouvoir, ça part très vite. Très vite. On a vu à la télé, c'est elle-même qui raconte la femme de Chirac. Elle va dans son restaurant habituel. Le portier lui dit... Madame, nous avons un endroit réservé pour les chiens, avec son petit chien. C'est là qu'elle a dit, j'aurais préféré que mon mari ne soit pas président. Parce que quand on quitte ça, la vie change. Ah ben voilà la réalité. Or, on n'est pas président en vie. Elle dit au portier, mais monsieur, j'ai l'habitude de venir dans ce restaurant, on m'autorise toujours. Entrer avec mon chien dans la salle où il y a tout le monde. Et le portier lui dit, mais madame, vous n'êtes plus première dame. Bien-aimée, quel rappel! Vous n'êtes plus première dame. Elle a dit, j'étais tellement déstabilisée que je n'ai même plus mangé, j'ai fait demi-tour. Mais c'est ça la réalité. Et on ne l'a pas rattrapé pour dire, revenez. Non, non, non. Au revoir, il y a déjà une autre première dame qui vient ici. Le pouvoir, ça part vite. Ça part vite, bien-aimé. Aujourd'hui, on voit des gens comme Lionel Jospin, premier ministre, qui commence à courir après être président de commission. C'est rigolo. Ah bon, pour faire telle enquête, Lionel Jospin, président de commission, bien-aimé. Tous ces gens-là, c'était même pas des gens qui pouvaient approcher Jospin, tous ces gens-là qu'on voit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est obligé de courir après eux pour qu'on le nomme président de commission. Le pouvoir, ça part vite. Tout ça, il n'y a pas de salut dans tout ça. Le salut ne se trouve qu'en un seul nom, le nom de Jésus. Est-ce que le salut se trouve dans le libertinage? Croire que je peux tout faire. J'ai envie de faire ceci, je fais. J'ai envie de faire ceci. Non, c'est faux. Ça finit toujours très mal. Vous avez déjà vu quelqu'un être dépendant de l'héroïne? Comment ça se fasse dans son corps? Comment il crie? Aujourd'hui, en Angleterre, il y a des jeunes qui n'arrivent plus à se contenter d'un whisky. Il leur faut mettre des produits chimiques pour rendre l'alcool beaucoup plus puissant. Ils n'arrivent plus, il leur faut boire des produits chimiques. Et beaucoup meurent. meurent à cause de cela. Il n'y a pas de salut dans le libertinage. Ce n'est pas parce que tu crois que tu peux tout faire que ça va te donner le salut, le bonheur. C'est faux. Dieu a mis des limites. Ces limites ne sont pas là pour nous embêter. Elles sont là pour nous protéger. Quand nous allons sur l'autoroute, il y a des limitations de vitesse. Nous allons sur les routes, il y a des feux rouges, il y a des limitations. Elles ne sont pas là pour nous embêter, pour nous enlever la joie. Elles sont là pour nous protéger. Parce que l'autorité sait que les grandes vitesses peuvent tuer et toi et les autres. L'autorité sait que quand tu prends l'alcool en conduisant, tu te mets en danger. Mais vous savez qu'est-ce que les gens disent ? Oh, je ne vais pas me freiner à cause de leurs lois. Mais c'est comme si les lois étaient faites pour l'autorité. Elles sont faites pour assurer la sécurité de chacun. Et on se dit, je suis libre, je fais ce que je veux. La dernière fois, je suis rentré, hein, personne, j'ai pas fait d'accident. Ça fait deux fois que je prends l'alcool, je conduis et il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où tu te retrouves paralysé à vie. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il se trouve qu'en Jésus. Il se trouve qu'en Jésus. Bien-aimé, c'est la vérité. Ce n'est pas croire que je veux faire de ma vie ce que je veux. Quel est le salut? Pas du tout. Il y a des jeunes, quand on était jeunes, il y a des gens qui restaient au coin des rues. Pendant que les autres étudiaient, ils se sentaient très heureux en restant dans les coins de rue. Mais vient un jour, tu vas rester seul au coin de la rue. Tout le monde comprend petit à petit qu'il doit vivre, qu'il doit trouver un travail, qu'il doit... Et tu te retrouves à 35 ans, il n'y a plus rien. Voilà. C'est ça la réalité. Le libertinage n'est pas du tout le salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. L'argent, ce n'est pas le salut. Combien de gens ont fait des économies quand il a maintenant beaucoup d'argent, on lui annonce un problème, un décès, on lui annonce une maladie grave et il est obligé de dépenser tout son argent là, qu'il a mis du temps à économiser. Combien ? On te dit, ah ben, il y a des fissurations dans la maison. Tout l'argent, tu croyais devenir riche, mais tout repart dans la dépense. Si l'argent donnait le salut, nous ne verrions pas tous ces acteurs fuir le pays. Tous ces sportifs fuir le pays. C'est que malgré leur richesse, ils se sentent asphyxiés. Le salut ne se trouve pas dans une autre voie. Elle ne se trouve qu'en Jésus. Que personne ne nous trompe. Le salut ne se trouve pas dans la religion. Beaucoup de gens cherchent le salut dans la religion. La religion, c'est quoi? On m'appelle chrétien. On m'appelle musulman. On m'appelle juif. Je vais autant de fois au culte, je vais autant de fois à la synagogue, je fais autant de fois à la mosquée. Vous savez, toutes les religions se ressemblent. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit dans la religion. Dieu veut qu'on connaisse le Sauveur, c'est Jésus. La religion, c'est ça. Ça se ressemble. Aller dans une synagogue, aller dans un temple catholique, aller dans une mosquée, vous allez être étonné de quoi? Des rituels. Vous aurez l'impression que vous êtes toujours au même endroit. Vous aurez l'impression que vous êtes toujours au même endroit. Dans certaines synagogues, il y a même les prières qui sont faites. Ce sera celui qui va faire le plus vite, quoi. Et vous allez vous rendre compte que dans toutes ces religions, il y a des chapelets. C'est-à-dire, pour telle chose, il faut faire 20 fois le psaume 119. Là, c'est les juifs. Pour telle chose, chez les catholiques, il faut faire 30 fois le Notre Père. Vous allez chez les musulmans, il y a aussi le chapelet. Il faut faire autant de fois. Les religions se ressemblent. Ils ont des lieux de pèlerinage où on va adorer les morts. Vous avez le catholicisme, plein de lieux de pèlerinage où on adore les morts. Vous avez dans le judaïsme, pareil, il y a ce qu'on appelle le Jar Zeit. C'est les jours d'anniversaire des rabbins qui sont morts. Alors que la Bible interdit tout contact avec les morts. Vous savez, la religion, c'est pareil partout. Vous allez dans l'islam, moi j'ai vécu au Maroc, il y a des tombeaux où les gens vont faire des pèlerinages. Au Sénégal, il y a des tombeaux où les gens vont faire des pèlerinages. En Iran, partout, les musulmans, ils ont des tombeaux où les gens vont faire des pèlerinages. La religion se ressemble partout. Si vous examinez les religions, vous direz, mais non, mais c'est la même source. C'est la même source. Mais Dieu nous a donné le chemin pour aller vers lui. C'est son fils Jésus. Et ça, ce n'est pas de la religion. C'est un contact personnel avec Dieu. C'est un choix personnel que tu fais. Tu dis, Dieu, je suis fatigué de marcher par moi-même. L'argent n'arrive pas à me donner l'assurance. Ma jeunesse n'arrive pas à me donner l'assurance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La religion ne sauve pas. Vous avez vu Jaïrus, non? Il était chef de la synagogue, mais sa fille était en train de mourir. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. C'est Jésus qui sauve. Et il y a des limitations dans nos vies. Quand nous voyons sa limitation, Dieu veut nous dire, sors de la religion. Il y en a qui se disent, oh, mais moi je suis chrétien, hein? Oui, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ce titre-là qui sauve des chrétiens. C'est Jésus qui sauve. Et Jésus t'appelle à entrer dans une vraie relation avec lui. Dans Jean 3, il y a un homme qui était un grand religieux, un docteur. On lit Jean 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Il n'a pas envoyé son Fils pour que tu sois dans la religion, mais pour que tu sois sauvé par lui. Sauvé par Jésus, c'est un salut total. Ce n'est pas juste aller au ciel. C'est que depuis la terre, tu es dans l'assurance. Tu es dans la paix. Tu es dans les solutions, dans la solution à tous tes problèmes. Depuis la terre. Mais parfois, il faut attendre. Pourquoi il faut attendre? Parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur plus que toute autre chose. Dieu peut te donner une maison, mais si ton cœur se perd, à quoi ça sert? Dieu peut te donner des voitures. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui ont des millions, des milliards, c'est Dieu qui leur donne. Quelqu'un dira, bon, mais c'est des païens. Oui, mais il est écrit que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Tout est sous contrôle de Dieu. Rien ne se passe sur la terre sans que Dieu n'ait décidé. Même un moineau ne tombe pas sans que Dieu ait décidé. Donc quand on voit tous ces millionnaires, ces milliardaires, ces présidents, c'est Dieu qui permet tout ça. Si Dieu refusait, ils n'auraient pas tout ça. Mais quand, malgré le fait que Dieu leur a donné, est-ce qu'ils sont dans le bonheur? Non, ils continuent à mentir. Ils continuent à faire des guerres et à tuer des millions de personnes pour leur intérêt personnel. Malgré le fait que Dieu donne la richesse à tous ces gens-là qui sont dans le satanisme. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Ils tombent dans l'héroïne, dans la pédophilie, dans l'homosexualité. Ils ne sont pas heureux. Donc Dieu sait bien que parfois ce que tu demandes, et c'est que tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as comme l'impression que ce n'est pas la bonne méthode. Mais avec Dieu, il n'y a pas de méthode. Avec Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et beaucoup se sont posé la question. Mais est-ce que ce n'est pas la bonne méthode? Est-ce que ce n'est pas la bonne façon de prier dans laquelle je suis? Faut-il faire autre chose? Bien-aimé, je te dirai une seule réponse. Il faut que tu cherches Jésus. Le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Et Jésus seul. Et si Jésus est dans la porte A, tu fuis la porte A, tu veux la porte B, parce que la porte B t'arrange, tu n'auras jamais le salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Et beaucoup d'entre nous sommes parfois dérangés par les problèmes de la terre. On a prié, on a demandé au Seigneur. On s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qu'on a entendu? Vous savez, on n'est pas le premier à se poser ces questions-là. Psaume 73, il y a un prophète du Seigneur qui s'est posé ces questions-là. Gédéon, un serviteur de Dieu qui s'est posé ces questions-là. Mais Seigneur, nous avons entendu que tu as fait des miracles autrefois. Mais nous, regarde, nous sommes esclaves maintenant. Et Dieu lui dit, mais Gédéon, c'est toi que j'ai choisi pour changer les choses. Pendant que tu pleures pour dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. On voit dans la Bible Paul qui était fidèle, un tel était loin. Dieu est en train de te dire, mais maintenant pour faire comme Paul, c'est toi que j'ai choisi. Mais toi aussi choisis-moi. Voilà. Sors de la méthode. Les gens sont dans la méthode. Ah mais normalement, on devrait faire ceci après le culte. Normalement, non, il n'y a pas de normalement. Le vent souffle. Jésus nous a dit dans Jean 3, où il veut, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. C'est que Dieu nous attend de nous, que nous puissions choisir Jésus et le laisser nous conduire par son esprit. Il ne nous donne pas de méthodes, c'est la religion qui amène des méthodes. Il nous conduit. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais... ça fait 5 ans, on évangélise, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'évangéliser. Ce n'est pas de chercher les résultats. Dieu dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On obéit à cette voie-là. On ne va pas arrêter d'évangéliser parce qu'il n'y a pas de résultat. Il y a des gens qui disent, mais non, il faut changer la façon d'annoncer l'évangile. Il faut dire aux gens, venez, Jésus vous bénira. Mais non, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est « Allez prêcher la bonne nouvelle ». C'est quoi la bonne nouvelle? Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Il y en a qui disent, mais quelqu'un qui est très riche comme ça, quand on va lui parler de Jésus, ça ne va rien lui faire. Pourquoi ça ne va rien lui faire? Jacques dit dans l'Épître, il dit « Dites aux riches de ce siècle que leur richesse est rouillée. » C'est de la rouille. Vous allez voir une voiture imposante garée quelque part. Vous dites, mais quelle belle voiture, quelle voiture imposante. Mais quand vous mettez un coup de marteau, ça se casse parce que c'est déjà rouillé. C'est ça ce que sont les riches d'aujourd'hui. Mais ces riches-là ont besoin que quelqu'un leur dise ça, que tu n'as rien. Ta richesse est rouillée parce que la vraie richesse se trouve qu'en Dieu seul. Dieu seul, quand il te oint, il te donne la richesse, personne ne peut voler. Mais ce que tu peux garder dans ton compte peut s'effacer rapidement par les difficultés de la vie. On a vu Bernard Tapie finir en prison. Les choses de cette terre sont rouillées. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. On dit qu'il faut prêcher autrement. On ne va pas prêcher autrement. On va dire aux gens ce qu'est la vérité. Qu'ils croient ou pas, leur richesse est rouillée. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Pourquoi le salut ne se trouve qu'en Jésus? Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui détruit tout. J'ai discuté avec un homme récemment. Il me dit, mais l'homme fait des choses extraordinaires. Moi, je dis, c'est vrai. Et alors? Oui, donc ça veut dire que les choses que nous, on attribue à Dieu, peut-être que dans 50 ans, dans 1000 ans, on comprendra que nous-mêmes, on peut faire ça, c'était pas Dieu. Peut-être que ce qu'aujourd'hui, on comprend pas. Moi, j'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Je reconnais que si on a amené un Romain aujourd'hui, il va croire qu'il est au paradis. En appuyant sur un bouton, la lumière vient. Voler dans un avion, il va croire qu'il est au paradis. Mais le problème, quand il va voir les bagarres en chemin, quand il va voir les cambriolages, quand on va lui voler son portable dans le métro, il se rendra compte qu'il n'est pas au paradis. J'ai dit à ce monsieur-là, c'est ça le problème. Le Romain va être étonné par les métros, par les voitures, par les téléphones. Il dit, mais c'est le paradis ici. L'eau qui sort du robinet. La télévision, il se voit dedans. Mais, quand on va le menacer avec un revolver, quand on va le dépouiller par les pickpockets, quand les impôts vont tomber, il se rendra compte que, tiens, là, ben, je croyais que c'était le paradis. Non, c'est la technologie. Ce n'est pas le paradis. Il y a un homme qui a dit, quand ils étaient enfants, parce qu'ils venaient d'Iran, ils avaient émigré en Israël, c'est des Juifs. Ils ont dit, on nous a donné, ils étaient à 8, mais ils avaient un appartement, une maison d'une pièce et demie. Il dit, mais on n'a jamais vu nos parents se disputer devant nous. On dormait à 8, ils se serraient à 8. Il dormait. Il dit, mais je ne regrette pas mon enfance. C'était bien. C'était beau. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont leur chambre à eux, mais qui se plaignent. Nous, on était à 8, mais on était heureux. Parce que chacun aidait l'autre. Il dit, dans notre quartier, on ne fermait jamais les portes. Parce que personne ne va te voler, parce que tout le monde est pauvre. Tout le monde a la même chose que l'autre. Il a dit, mais depuis que ce qu'on appelle le progrès est venu en Israël, c'est là qu'on fait face aux bandits, aux voleurs, à tout ce qu'on veut. L'argent, la technologie, le progrès, entre guillemets, ce n'est pas le paradis. Ça reste la difficulté de la terre. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Combien de gens, nous on a eu des parents, dès qu'ils ont eu l'argent, 2 femmes, 3 femmes. Mais le problème, c'est que l'argent part vite. Il faut payer les 3 loyers. Il faut aider les petits frères de chaque femme. Donc le petit frère de la première femme doit faire l'université, tu payes. Le petit frère de la deuxième femme doit voyager, tu payes. Le petit frère de la troisième femme a besoin de se marier, tu payes. Bien-aimé, même quand tu es Crésus, l'argent, ça part. L'argent, ce n'est pas comme l'eau du robinet. Ça part. Michael Jackson était endetté. On avait bloqué sa concession. Il est mort locataire, Michael Jackson. Il louait une maison, même si c'était à 150 000 euros le mois, mais il louait la maison. Ce n'était pas à lui. Ça part. Il ne faut pas croire que ce que propose le monde est une forme de salut. C'est faux. J'ai dit à ce monsieur-là, le salut ne se trouve qu'en Jésus. Parce que Jésus va régler le vrai problème qui gâche tout. Ce qui gâche tout, c'est le péché. Ces enfants-là, ils étaient à 8. Tant qu'il y avait l'amour dans leur maison, ils étaient bien. Mais dès qu'ils ont grandi, chacun pouvait trouver l'argent dans son coin. L'argent commença à circuler. Le péché a tout gâché parce que le péché a utilisé l'argent. C'est le péché qui fait problème. Ce n'est pas la technologie. C'est vrai que quand on est à 8, on se plaint. Mais quand on est seul et qu'on n'a pas Jésus, on s'ennuie aussi. Et on veut quoi? Un peu de drogue, un peu d'internet. Et voilà, on finit par se faire avoir. Le problème, c'est le péché. C'est pourquoi le salut ne se trouve qu'en Jésus. Il ne faut pas dire le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est les noirs. Le problème, c'est les blancs. Non, le problème, c'est le péché. Tant qu'il y a le péché, ça gâche tout. Ça gâche tout. Il y a quelqu'un qui est parti en Émirat, au Qatar ou Émirats Arabes Unis. Il m'a dit, pasteur, c'est plus propre que l'Europe, de loin. C'est propre, c'est brillant, c'est beau. Mais c'est mort. Il n'y a pas la vie. Voilà. Il n'y a pas la vie. Les gens sont froids. Il n'y a pas la vie. C'est plus beau qu'ici. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas la vie. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. C'est lui qui donne la vie. Il guérit du péché. Il donne la véritable vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Nicodème, ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce ne sont pas les méthodes. C'est le salut. C'est moi qui sauve, parce que je suis la vie. Je suis venu prendre vos péchés afin de vous donner ma vie à moi et que vous ayez la vie éternelle. Et désormais, Dieu devient votre Père. Il s'occupe de vous chaque jour. Je sais que c'est difficile de croire à tout ça. Quand je dis que c'est difficile, je dis de croire vraiment. Parce qu'on peut tous croire, accepter Jésus, mais croire qu'il va s'occuper de nous chaque jour, là, il y a un autre pas à faire encore. Mais il faut faire ce pas, parce que sinon tu traînes hors du salut. Tu as beau avoir le ticket pour le ciel, mais tu n'as pas le salut sur terre. J'espère que je me fais comprendre. Dieu nous sauve dans sa grâce. Et quand tu acceptes son fils comme sauveur, oui, tu iras au ciel. Mais si tu n'acceptes pas son fils comme maître de tous les jours, comme celui qui peut te sauver chaque jour sur terre, tu as le salut pour aller au ciel, mais tu ne l'as pas pour vivre sur terre. Et ça va être une vie difficile. Il faut que chaque jour tu dépendes de Dieu. Il faut que les problèmes tu les règles en priant Dieu. Non pas en attaquant les humains, en accusant les humains, mais en priant Dieu. Dieu est tout puissant. C'est là que tu prouves que tu as ton salut vraiment. Tu dis non, moi j'ai mon salut. Un tel veut m'empêcher d'entrer de vivre mon salut. Moi j'ai pris Dieu. Je n'attaque pas le tel. Ce n'est pas les méthodes qui changent notre vie sur terre. C'est Dieu qui change cela. Tu sens que tu veux tomber dans le péché. Le péché t'entraîne. Le péché te dérange. Mais le salut ne se trouve qu'en Jésus. Ça ne se trouve pas dans la religion. Les enfants inconvertis, les parents inconvertis, les membres de famille inconvertis, le salut ne se trouve qu'en Jésus. Ce n'est pas dans l'accusation. Que personne ne le trompe, bien-aimé. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi chaque jour de ta vie, qu'est-ce que tu dois te dire? Jésus. Pour ce problème, que dois-je faire? Qu'est-ce que toi tu aurais fait? Tu dois t'aider chaque jour. Jésus, viens à mon secours. Comme Jairus a fait. Viens m'aider. Quand tu commences à philosopher en disant, mais ça fait 15 ans que je suis chrétien, je ne comprends pas comment de tels péchés peuvent encore venir me déranger. Tu veux commencer à philosopher. Appelle seulement au secours. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, je veux de ton salut. Jésus, donne-moi le goût de vivre que par toi et toi seul. C'est ça le véritable salut. Nous allons chanter Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chant sera affiché. Sentons-nous libres de célébrer le nom qui est notre salut. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une richesse quelconque. Le nom le plus beau, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus, encore le premier couplet. Ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Deuxième couplet.
On peut se tourner en lire.
Jésus, ton nom est notre paix, car il unit le nom de tous, tous tes amis. Alléluia. Jésus, ton nom est notre paix. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit le nom de tous tes amis. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Thank you.